Daniel chapitre 6, les versets 1 à 11 que nous connaîtrons bientôt par cœur, ou 2 à 12 en fonction de la version qui est sous vos yeux. Donc dans la mienne, c'est le verset premier qui commence par Darius et qui continue en disant que Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense, écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux et il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et suppliait son Dieu. Nous allons vers le Nouveau Testament et vers la lettre de Paul aux Éphésiens, donc à l'église d'Éphèse. Éphésiens chapitre 5, passage clé de la partie pratique de cette épître magistrale. Éphésiens 5, verset 18 à 21. Je lis au verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, c'est, disons, du dérèglement. Cela produit un désordre, ce n'est pas le terme classique débauche qui, en grec, est compréhensible pour nous, puisque c'est un mot qui a donné pornographie en français, ce n'est pas celui-ci. C'est le fait de ne pas pouvoir se sauver soi-même, le dérèglement. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire continuellement remplis de l'esprit, devrions-nous traduire, puisque nous avons là l'usage d'un temps qui s'inscrit dans la durée. Et puis ensuite, nous avons toute une cascade de participes présents. Ici, nous avons des impératifs, mais en fait, ce sont des participes présents qui se succèdent dans le texte grec et qui indiquent aussi la continuité, la permanence dans l'exercice de tous ces aspects qui découlent ou qui expriment, qui extériorisent le fait d'être continuellement rempli de l'esprit, vous entretenant par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et le texte continue tout à fait dans la même ligne, sans ce changement de paragraphe qui nous trompe, n'est-ce pas ? Vous, femmes, chacune étant soumise à son mari. Donc, veillons à ne pas créer de fossé entre le verset 21 et 22, parce que ça change toute la signification du texte. C'est dit tout d'un bloc, dans le même souffle. Cela découle de ce fait d'être continuellement rempli de l'Esprit. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Un dernier texte dans l'épître suivante, Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Versets 4 à 8. Philippiens 4, 4 à 8. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, et dans les deux sens, on peut le comprendre, dans les deux dimensions. Il est proche parce que son retour est imminent, et il est toujours imminent, et le Seigneur est proche de nous en fonction aussi de chacun de nos besoins. Ne vous inquiétez de rien. Littéralement, on pourrait traduire, ne vous laissez pas diviser intérieurement dans votre âme, dans votre cœur, par quoi que ce soit. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, tout ce que l'on peut concevoir, toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, ou soit mise au compte, c'est un terme de langage comptable, si vous voulez, soit mise au compte de votre mentalité, du monde de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Nous avons, hier soir donc, considéré, cela nous a été rappelé tout à l'heure, nous avons considéré l'attitude de la prière. Et pour ce faire, nous sommes appuyés sur cette expression, trois fois par jour, « il se mettait à genoux ». Et vous vous souvenez que nous avons dit que si le geste physique pouvait, dans nos circonstances, avoir une certaine importance, lorsqu'il était le reflet de ce qui se passe dans notre être intérieur, et non pas simplement un acte formel, n'est-ce pas, l'essentiel dans les Écritures, c'est d'avoir le cœur à genoux. Et nous avons bâti toute notre réflexion biblique sur cette expression « avoir un cœur à genoux ». Nous voulons ce soir aller plus loin et vous remarquez un cinquième mot-clé, le mot « climat », qui va donc nous intéresser ce soir. Nous aurions pu choisir d'autres mots. J'ai deux mots, en fait, dans mon sous-titre, tonalité, pourrions-nous dire aussi, ou climat. Nous allons essayer ensemble de comprendre ce soir tout ce que cela signifie, et c'est encore une réflexion particulièrement stratégique. Il y a dans le verset 10 ou 11, en fonction des versions, il y a un aspect qui est surprenant. Qui est surprenant au niveau de la réaction de ce vieillard, Daniel, face à une aussi douloureuse épreuve. Comme toujours, il est important que, lorsque nous approchons un texte de type biographique, n'est-ce pas, dans les Écritures, nous nous incarnions, nous nous mettions dans la peau du personnage en question, parce que ça donne à l'histoire un relief beaucoup plus saisissant, et ça nous interpelle davantage. Et quand on se met dans la peau de Daniel, on se dit, mais il vit quelque chose d'extrêmement difficile. Voilà donc un homme de Dieu, largement octogénaire, qui se retrouve dans une sorte de situation d'embuscade. On lui tend un piège. C'est un guet-apens. Et il n'est pas dupe de l'origine du décret signé par Darius. Il sait très bien que c'est lui qui est directement visé par ses collègues qu'il surpasse, n'est-ce pas, comme le dit le verset 3. C'est le genre de situation qui est extrêmement désagréable dans la vie professionnelle, dans les relations humaines, familial, même ecclésial, n'est-ce pas? Parce que même dans l'Église, il y a parfois, hélas, des situations d'embuscade. L'Église n'est pas encore au ciel, elle est sur la terre, et il y a parfois des moments extrêmement difficiles à vivre, où finalement, parce que l'esprit charnel peut encore dominer ici et là, on se sent comme pris dans un guet-apens, dans une embuscade. Comment aurions-nous réagi dans une telle situation? Comment avons-nous réagi au cours de ces derniers mois, de cette dernière année, placés dans une situation ressemblant plus ou moins à cette cruelle épreuve, cette épée de Damoclès, avons-nous d'ailleurs dit, suspendue au-dessus de la tête du vieillard? Et il sait très bien qu'il n'échappera pas à vue humaine à la condamnation et à la fosse aux lions. Il le sait, puisqu'il ne peut pas, il n'est pas un seul instant question qu'il s'abstienne 30 jours durant de prier son Dieu, et ils savent qu'ils sont en embuscade pour pouvoir très rapidement le dénoncer au roi afin qu'il soit jeté dans la fosse aux lions. Alors, on est là devant une situation extrêmement difficile, et on sait que, d'une part, ce sont nos collègues qui nous jouent ce tour, et que c'est un tour qui va aboutir à la mort. Et ce qui m'a profondément interpellé, c'est ce fait que il est entré dans la chambre supérieure de sa maison, et il a loué son Dieu. C'est ce que dit le texte. Il a prié, il a invoqué, supplié, imploré, mais il a loué son Dieu. Climat. Il a loué son Dieu. Quelqu'un écrit, il y a deux sortes de chrétiens. les chrétiens bénissants et les chrétiens gémissants. J'ai sous les yeux quelques exemples de chrétiens bénissants. Nous allons en voir défiler sous nos yeux ce soir, pour nous stimuler, nous encourager à développer, n'est-ce pas, cette sainte discipline d'un esprit de louange et de reconnaissance permanent. Ponctuellement, mais régulièrement, trois fois par jour. Le texte nous dit que cet homme louait son Dieu. Sans compter donc tous les autres moments de la journée et de la nuit, nous le verrons, où parce qu'il louait son Dieu de manière régulière, il avait tout l'entraînement qu'il fallait pour le faire aussi le reste du temps. Il vivait, c'est vrai, dans la supplication, il implorait, mais dans un climat qui est absolument fondamental dans les Écritures. C'est incroyable la place qu'il occupe, un climat d'action de grâce, un climat de reconnaissance. On pouvait lire sur une affiche portant une rose exquise, certaines personnes se plaignent parce que les roses ont des épines, d'autres se réjouissent parce que les épines ont des roses. Un serviteur de Dieu, chrétien bénissant, était pasteur en Écosse. Et tout le monde le connaissait pour cet esprit de reconnaissance. Il savait toujours trouver un domaine pour lequel louer le Seigneur. Et un dimanche matin, le climat était exécrable, la température était très désagréable. En fait, tout était fait pour tirer l'âme en bas, comme on dit. Et les membres de l'Église, qui connaissaient bien leur pasteur, de dire « Oh, aujourd'hui, il aura bien du mal à trouver une raison de louer le Seigneur en un jour aussi minable que celui-ci. » Et à leur grand étonnement, le responsable de l'Église de commencer à prier dans les termes suivants « Nous te louons, ô notre Dieu, de ce qu'il n'en soit pas toujours ainsi. » Au sein d'une mission évangélique de sauvetage à Chicago, un croyant manifestait de manière très régulière un esprit de reconnaissance, quoique sa vie fût difficile. Et lors de toute réunion de l'Église, il se levait pour rendre grâce à Dieu. Et un soir, il arrive à une réunion du soir, comme aujourd'hui, et il portait un bandage autour du pouce parce qu'il l'avait frappé avec un marteau en faisant du bricolage. Et il a prié de manière très simple en disant « Écoute, loué sois-tu Seigneur parce que j'ai toujours mon pouce. » Une autre fois, ce croyant rentre chez lui à pied, il a acheté un petit steak au supermarché du coin. Il dépose momentanément son sac par terre pendant qu'il attache un de ses lacets de souliers. Et voilà qu'un chien passe par là et s'empare de son dîner. Et avec sa joie habituelle, l'homme de aussitôt s'exclamer « Loué sois-tu, Seigneur, j'ai toujours mon appétit. » Il y a deux sortes de chrétiens, les chrétiens bénissants et les chrétiens gémissant. J'ai terminé, dans le courant du mois de février, la rédaction d'un ouvrage en deux volumes qui vont se succéder sur 6 mois prochainement, qui seront publiés par la Maison de la Bible, sur tous les problèmes de découragement et de dépression à partir des Écritures. Et j'ai sélectionné pour ce soir deux extraits de ce livre, cet ouvrage, qui nous montre nos tendances lorsque nous sommes trop souvent confrontés, n'est-ce pas, avec des situations bien moins graves que celles de Daniel. Nous sommes assez facilement tentés et succombons d'ailleurs à l'apitoiement sur soi. Et Daniel aurait pu effectivement commencer à se lancer dans de terribles lamentations pour cette situation terriblement injuste qui lui a été faite. Alors, donc voici un premier texte. L'apitoiement sur soi est un fléau à la fois terriblement destructeur et particulièrement subtil. Il nous emprisonne, nous étouffe, nous submerge et nous envoûte à la fois, agissant comme une drogue hallucinogène aux effets désastreux. Sangsue vorace aux innombrables ventouses, il nous absorbe, nous dévore, il déforme nos pensées, tord notre vision de nous-mêmes, des autres et de Dieu. L'apitoiement sur soi n'engendre que des personnes amères, aigries, cyniques. Il nous maintient recroquevillés sur nous, les yeux rivés sur notre très cher moi, cultivant un nombrilisme aigu, passant une grande partie de notre temps à nous poser en victimes innocentes, à nous prendre en pitié, à lécher nos plaies, à ressasser des griefs et des injustices, à nous lamenter sur notre sort. Chaque fois que nous nous complaisons dans l'apitoiement sur soi, c'est donc notre vieille nature déchue, tordue par l'égocentrisme, que nous satisfaisons et engraissons. En cédant ainsi à ses caprices orgueilleux, à son avidité gloutonne et insatiable, à ses exigences sans fin, nous la caressons, la chouchoutons, la dorlotons, au lieu de la maintenir crucifiée. L'apitoiement sur soi est un serpent venimeux, parmi les plus dangereux au monde, à cause de sa capacité phénoménale à nous mettre en état d'hypnose, sans ressort, sans volonté, totalement engourdi, anesthésié, vidé de toute énergie. Johnny Erickson Tada, tétraplégique depuis l'âge de 17 ans, fondatrice et présidente d'une association qui encourage les chrétiens à œuvrer au sein de la communauté des handicapés, a appris à fuir cet hideux reptile. Je la cite. « La douleur physique et la souffrance émotionnelle font, il faut bien le reconnaître, partie de ma vie quotidienne. Je m'attendris sur mon sort un moment, pleure un bon coup, puis terminé, je n'en parle plus. J'ai appris, il y a bien longtemps, que s'apitoyer sur soi-même pouvait être un piège fatal. Et j'ai pris l'habitude de fuir ce sentiment comme la peste. Je ne m'attarde plus autant sur mon apitoiement, fini par me relever et poursuivre ma route. » Rien n'est plus destructeur de ce climat de la reconnaissance et de la louange que ce regard centré sur soi-même qui lèche en permanence ses plaies et rumine de mauvaises pensées. Autre tendance, celle-là plus subtile, que j'appelle la prière égocentrique. Il y a dans les Écritures plusieurs échantillons de prières égocentriques prononcées par des hommes de Dieu remarquables, mais qui, à un moment ou à un autre, ont commencé à développer un esprit de prière très, très égocentrique. Josué a été de cela. Le prophète Élie, que j'évoque dans cet ouvrage, a commencé par une prière égocentrique qui suivait une ornière creusée dans le monde de ses pensées depuis un certain temps déjà. Alors qu'est-ce qu'elle produit, la prière égocentrique ? Voici donc cet extrait. Aussi spirituelle soit-elle en apparence, la prière égocentrique peut même aller jusqu'à se mêler au contenu bien peu appétissant de ce que l'on appelle la délectation morose. Certaines personnes éprouvées refusent délibérément de quitter leur état de découragement. Elles soignent, dorlotent avec volupté et veillent à ce que perdure le deuil de leur cœur blessé à mort par les injustices de la vie. Elles prient, certes, même parfois beaucoup, longuement et souvent, mais toutes leurs prières en restent perpétuellement au stade désespérant des confessions et des lamentations. Se complaisant dans l'exposé détaillé et répétitif de leur malheur, devant Dieu, elles sassent et ressassent mille fois, remâchent et rabâchent souvenirs, soucis, douleurs, rancœurs. Elles trouvent une sorte de jouissance de leur tristesse soigneusement entretenue et, l'imagination aidant, se mettent parfois à cultiver des sentiments malsains, morbides, inquiétants. Elles s'abîment alors dans des désespoirs inexplicables et se perdent dans de sombres méditations sans fin. Elles aiment qu'on les plaigne et ne sauraient se passer de la présence d'une cour de pleureuses professionnelles assidues et de visages allongés d'ordonnateurs des pompes funèbres. Quitter leur statut de victime accablée sous les coups du sort creuserait un vide insupportable autour d'elles, car elles cesseraient rapidement d'être dignes des soins attentionnés de leur entourage. Rentrant dans le rang, leur vie redeviendrait trop banale. Fini alors ce sentiment plaisant d'être un centre d'intérêt pour un cercle d'amis plein de sollicitude. Fini l'agréable convergence de nombreux regards de compassion. Voilà pourquoi, même lorsqu'elles prient, ces personnes n'en continuent pas moins à reculer et à fuir pieusement devant l'incontournable et salutaire nécessité de détourner leurs yeux intérieurs d'elles-mêmes pour les réorienter concrètement dans la bonne direction. Plus ou moins consciemment, elles se bornent à faire semblant de regarder en haut. Alors ce texte de Daniel 6 est intéressant, n'est-ce pas, de ce constat, n'est-ce pas, il priait. Et pour nous indiquer qu'il n'y avait pas chez lui une prière de délectation morose, centré sur lui-même, la parole de Dieu a pris soin d'ajouter, parce que c'était là son expérience, il priait et il louait son Dieu. Il priait et il louait. Pourtant, la louange est prière. Il priait et il louait son Dieu. Mais attention, la louange n'est pas un truc. Et nous avons, hélas, dans notre littérature évangélique, une sorte de fleurissement de livres qui traitent de la louange et qui sont très problématiques. De surcroît, certains d'entre eux ont la vie dure et longue, on les réédite, malgré les remarques désespérées d'un certain nombre de personnes qui ont relevé les dizaines d'erreurs doctrinales, dont certaines très graves, qu'ils contiennent. Je pense à l'un de ces livres qui a été la Marseillaise évangélique française, non seulement dans certaines tendances du milieu évangélique, mais dans tout le milieu évangélique, et encore tout récemment, sans m'en rendre compte, dans le cadre d'une grande convention en Alsace, j'ai évoqué ce livre parce que je venais tout juste de le voir sur l'étalage à côté des miens. Alors ça me gênait quand même un petit peu. De la prison à la louange. Ne vous précipitez pas forcément pour le lire, mais vous pouvez le lire puisqu'on en parle. Mais faites-en un exercice spirituel pour le lire Bible en main, avec un crayon en main pour bien souligner tout ce qui n'est pas conforme aux Écritures. Et lisez-le s'il le faut deux ou trois fois, parce que c'est important parfois de faire ces analyses lucides, Bible en main, des livres qui se mangent comme des petits pains, d'autant plus que l'auteur de ce livre en a écrit plusieurs autres, et trois autres de ses livres sont maintenant publiés en langue française, puisqu'il est américain. Très problématique. La puissance de la louange. La louange n'a aucune puissance. Nous avons dit hier soir que la prière n'avait aucune puissance. Dans l'esprit, n'est-ce pas? Vous comprenez dans quel esprit je le dis. La prière devient puissante dans la mesure où c'est le Seigneur qui en est le moteur dans nos vies. Et c'est développé comme une tache d'encre sur un buvard, cette conception d'une sorte de louange, truc, magie, drogue. Il semble que la louange soit quelque chose d'irrésistible, que quelle que soit la manière, quel que soit le contenu de la louange, Dieu ne puisse que craquer simplement parce qu'on le loue. Alors il faut vraiment que nous quittions ces sentiers et que nous faisions même attention, puisque dans les églises évangéliques classiques s'est développée une partie louange dans le culte, généralement une première partie avec un groupe chargé de l'animation louange. Ça peut être tout à fait valable, mais là aussi il faut faire attention, parce que on finit vite là aussi par avoir des idées un peu bizarres sur les questions de louange. Alors ne faisons pas simplement du mimétisme parce que d'autres le font. Il n'y a pas une partie louange dans le culte, je suis désolé. C'est tout le culte qui doit être louange. Et nous devons veiller à ce qu'il y ait louange non seulement dans la beauté mélodique des chants qui sont entonnés, mais dans le contenu biblique de ces chants. Or, pardonnez-moi de dire que très souvent, je ne peux pas chanter certains des cantiques pendant la partie louange, tout simplement parce que je ne veux pas chanter des hérésies. Et je regrette l'époque d'un certain nombre de grands prédicateurs du passé. Je pense notamment à John Wesley et à son frère Charles, qui a composé des milliers de cantiques, et tous les deux travaillant ensemble ont eu à cœur de composer des cantiques qui, d'une part, soient suffisamment simples pour être chantés par tout le monde et être retenus et être chantés ensuite dans la vie de tous les jours, parce que c'est bien beau d'avoir des cantiques compliqués, mais comment est-ce qu'on fait pour les chanter chez soi après? Et si on a un peu de notion musicale, comment est-ce qu'on fait? Donc il nous faut avoir une musicologie qui ne soit pas trop spécialisée, trop pointue. Pour nos rencontres globales, l'Église n'est pas une chorale sur ce plan-là. De manière à ce que tout le monde puisse entonner, et John et Charles ont veillé à ce que leur musique soit suffisamment simple pour être à la portée de tout un chacun, et que tous les grands thèmes de la doctrine chrétienne dans les Écritures soient présents. Parce qu'ils avaient remarqué que les croyants apprenaient remarquablement la doctrine à partir des cantiques. Et quand on sait comment Dieu a béni le ministère de John et de Charles, qui lui n'était pas spécialement prédicateur, mais vraiment le musicien, le chantre du Seigneur, on ne peut que dire que Dieu a mis son sceau sur des ministères qui étaient bien centrés. Donc, attention à cet aspect parfois... Là encore, quelque peu superstitieux, quelqu'un écrit de manière remarquable, la louange n'est pas une drogue divine dont le but serait de calmer les souffrances de la vie. C'est parce que nous connaissons Dieu que même au milieu des blessures de l'existence, nous sommes malgré tout capables de le louer. La louange, la reconnaissance, l'action de grâce qui appartiennent au même bouquet d'un doux parfum au regard de Dieu, s'appuie sur notre connaissance intime du Seigneur. C'est ça ce qui est fondamental. C'est l'émanation tout à fait normale de la qualité de ma relation personnelle avec Dieu. Et non pas une sorte de recette magique qui curieusement obligerait le diable à fuir. Croyez-moi, si notre louange ne part pas d'un cœur en relation avec Dieu, le diable s'en moque. Il ne suffit pas de s'écrier « Loué soit l'Éternel » pour être délivré de ses ennemis. Psaume 18, n'est-ce pas? Et ça ne suffit pas. Ce verset ne doit pas être sorti de son contexte. Nous verrons demain matin comment le psaume 18 commence. Il commence par une expression d'intimité extrêmement forte de David avec son Dieu. Un David qui est follement amoureux de son Dieu. Et parce qu'il est follement amoureux de son Dieu, il peut, lui, dire « Quand je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. » Parce que l'ennemi sait que David a une relation personnelle, passionnée pour Dieu, intense avec Dieu. J'ai là, sous les yeux, une citation de ce philosophe évangélique britannique très fondé dans les Écritures, qui est bien sûr auprès du Seigneur, C.S. Lewis, qui s'est demandé pourquoi les psalmistes dans les Écritures nous demandent sans cesse de louer Dieu. Et il écrit ceci: « Je n'avais jamais remarqué que toute jouissance déborde spontanément en louange. Le monde est rempli de louanges. Les amoureux louent celles qu'ils aiment, les lecteurs leurs poètes favoris, les touristes louent les beautés du paysage, les joueurs leurs jeux favoris, on loue le temps, le vin, les mets, les acteurs, les moteurs, les chevaux, les collèges, les pays, les personnages historiques, les enfants, les fleurs, les montagnes, les timbres rares, les insectes rares, et même parfois les politiciens et les savants. Je n'avais jamais remarqué qu'aussi spontanément que les hommes louent ce qu'ils valorisent, aussi spontanément ils nous pressent de nous joindre à eux dans leur louange. N'est-elle pas charmante? N'était-ce pas fantastique? Ne pensez-vous pas que c'est formidable? En demandant à tous de louer Dieu, les psalmistes font ce que font tous les hommes quand ils parlent de ce qui leur tient à cœur. Est-ce que Dieu nous tient à cœur au point que, comme on est en admiration devant son ou sa bien-aimée, on ne peut que s'exclamer « Mais oh que tu es beau !» Ça, c'est la véritable louange. Et si véritablement nos cultes sont cela, alors nous aurons aussi le sentiment de la présence de Dieu, parce que Dieu siège au sein des véritables louanges de son peuple. Un homme de Dieu a écrit ceci: si nous devions renoncer à la louange, nous devrions commencer par mutiler nos Bibles en enlevant un grand nombre de pages, ce qu'assurément personne parmi nous ne fera. Il faut donc que nous continuions à louer le Seigneur. Elle reste la louange une joie, une force, mais à une condition pourtant. C'est que cette louange ne se fasse pas envahissante, investie à elle seule de toutes les vertus. Sorte de louange enzyme glouton. Alors, elle serait incantatoire. Et l'étant, elle deviendrait païenne. La louange peut devenir un cache-misère, un cache-péché. Nous devons veiller à ne pas louer le Seigneur là où nous devrions lui demander pardon. J'ai relu cet après-midi l'Épître aux Éphésiens, parce que la dominante de l'Épître aux Éphésiens, c'est en particulier cette dimension de reconnaissance, de louange, de célébration de Dieu liée aux merveilleuses richesses dont nous sommes pourvus en son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Vous savez que le tout début de l'Épître aux Éphésiens, c'est une longue phrase sans ponctuation qui va du verset 3 au verset 14, c'est énorme. Difficile à traduire d'ailleurs à cause de cela depuis le grec, une succession et une accumulation des bénédictions, n'est-ce pas, que nous avons en Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le terme bénédiction, c'est un terme qui a donné éloge en français. C'est-à-dire que, dans le fond, dès le début de l'Épître aux Éphésiens, on fait l'éloge de Dieu. Paul déborde du désir de faire l'éloge de Dieu. Et il va donc accumuler sur trois strophes toutes les raisons fondamentales de louer ce Dieu merveilleux en Jésus-Christ. Alors il évoque l'élection, la prédestination, le fait d'avoir un statut d'enfant adopté, le rachat, la rédemption, le fait d'être scellé du Saint-Esprit, les arts de notre héritage. C'est extraordinaire. Et à trois reprises, chacune des strophes se termine par la même expression pour célébrer sa gloire. Pour célébrer la gloire de sa grâce. La gloire, c'est-à-dire l'arc-en-ciel des perfections extraordinaires, extraordinairement variées, la beauté de Dieu dans son caractère et dans ses œuvres, la pesanteur de Dieu, si on reprend la pensée au sein du peuple juif, due à l'hébreu, n'est-ce pas, la pesanteur de Dieu dans son caractère et dans ses œuvres. Célébrer sa gloire. L'Éternel est grand et très digne de louange, dit le psaume 145 au verset 3. Alors maintenant, un petit additif qui n'est pas sans importance et qui me permettra d'autant plus de justifier l'affirmation d'il y a un instant selon laquelle tout notre culte doit être louange. Tout simplement parce que même la supplication de Daniel, quand Daniel invoque Dieu, l'implore, certainement d'abord de le garder fidèle dans cette circonstance. Ensuite, d'intervenir souverainement de la manière qu'il juge, qu'il sait, la plus sage. On peut, en quelque sorte, sous-entendre le contenu de la prière de Daniel par la qualité de la réplique de ses compagnons au chapitre 3, n'est-ce pas, face à la fournaise ardente, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, au roi. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Je pense que Daniel avait exactement le même raisonnement. Dans ta grâce, tu peux m'épargner, parce que tu es le Dieu souverain. Et puis, je reconnais aussi que tu peux, dans ta souveraineté, permettre que je sois croqué par les lions. Je suis inconditionnellement pour toi. Et il est évident qu'un vieillard comme Daniel, qui avait vécu tant de choses au fil des décennies, parfois extrêmement difficiles, qui ont été siennes, pouvait dire ceci, d'autant plus qu'il avait vu la fidélité de Dieu au fil des décennies passées. Donc, ce que je voulais souligner, c'est que la supplication de Daniel, l'appel au secours de Daniel, tel que nous venons d'en parler, c'est aussi en soi-même une forme de louange. Nous avons rétréci la louange en ne voyant dans la louange que cette action de grâce, cette reconnaissance, cet élan positif d'un cœur qui manifeste par les lèvres son amour pour le Seigneur. Mais Cher bien-aimé, quand je suis au bout du rouleau, et que plutôt que d'aller me plaindre dans le giron d'un tel, ou de me réfugier dans l'apitoiement sur soi, ou de m'enfoncer dans les délices de la délectation morose, je dis simplement au Seigneur, Seigneur, j'en peux plus. Je suis au bout, je n'y comprends plus rien. Eh bien, mes bien-aimés, je considère que ceci appartient aussi à la louange. Réfléchissons. Nous avons déjà pris l'exemple de la relation entre les enfants et les parents, déjà hier soir, n'est-ce pas ? Et nous le ferons encore demain matin. Qu'est-ce que nous aimons en tant que parents de la part de nos enfants ? Ce que j'aime de la part de nos enfants, même en tant qu'adultes, c'est cette liberté qu'ils peuvent avoir de dire à papa et maman, même quand on a 25 ou 30 ans et au-delà, tu sais, ça ne va pas. Je traverse un moment difficile. Ça nous honore. Ça veut dire que nous avons des enfants qui ont confiance en nous, qui estiment qu'ils peuvent partager avec nous, que nous n'allons pas leur tomber dessus à bras raccourcis comme les faux amis d'un certain Job, n'est-ce pas ? Nous sommes honorés parce qu'à quelque part, ils montrent qu'ils nous apprécient, qu'ils nous aiment au point de partager non seulement leur bonheur, mais aussi leur souffrance. Et leur attitude est une sorte de louange, eh bien, qui rend les parents fiers de leurs enfants. Et s'il existe des fiertés mal placées, il existe, et les Écritures nous le prouvent par les nombreux exemples de la vie de l'apôtre Paul, qu'il existe aussi des fiertés bien placées. Paul était fier. Quand il dit « je me glorifie d'eux », ça veut dire « je suis fier d'eux ». Et c'était une fierté bien placée. Alors, c'est intéressant ce que nous disons ici, parce que il faut aussi savoir que le psautier, c'est-à-dire l'ensemble des 5 livres qui constituent les psaumes, les 150 psaumes, chez les juifs, porte un autre nom. Ce ne sont pas les psaumes, mais c'est un mot hébreu qui, curieusement, pour les 150 psaumes, veut dire en français louange. Le terme louange englobe la totalité des psaumes, précisément pour cette raison. À savoir que lorsque, avec un cœur droit, de manière limpide, je m'approche de Dieu, que ce soit dans l'indignation, que ce soit dans le découragement, dans la plainte, dans l'interrogation angoissée, même dans un certain scepticisme face à telle ou telle situation, aussi bien que dans toutes les formes d'actes de reconnaissance, de louange, d'action de grâce, dans toute cette diversité d'approche de Dieu que constitue le psautier, je loue le Seigneur à quelque part. Et c'est ce qu'a fait dire à un introducteur du psautier. Les anciens hébreux, donc, ont intitulé tous les psaumes louanges, car on peut louer Dieu de bien des manières, en l'adorant, en chantant sa joie de le connaître, en le remerciant pour ses bienfaits, mais on peut le louer également en l'appelant au secours, en exhalant devant lui son indignation en face de l'injustice des hommes, en réclamant son intervention dans le cours de l'histoire, en rappelant ses hauts faits du passé et en exprimant la foi dans son triomphe final. Donc, que toutes nos rencontres, d'un bout à l'autre, aussi, quand nous sommes amenés très honnêtement et sobrement, même publiquement, à dire au Seigneur, Seigneur, ce matin, j'en peux plus, je viens à toi, même dans le cadre de ce culte, mais j'en peux plus, à ne pas avoir peur du regard de celui qui est sur son 31 d'impeccabilité spirituelle, hein, parce qu'il y en a toujours qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, hein, en disant, mais Seigneur, c'est aussi ma manière de te louer. Je te dis ce que je suis.
Mais je veux vraiment maintenant tourner mon regard vers toi, changer la direction de mon regard pour pouvoir aussi contempler ta beauté et reprendre la juste mesure de la situation dans laquelle je suis. Nous avons évoqué l'épître aux Éphésiens. Nous aurions pu, et nous allons peut-être brièvement le faire, prendre l'épître aux Colossiens. L'épître aux Colossiens, à cet égard, est intéressante. Elle a été rédigée sans doute aux alentours de l'an 62. Paul est dans la soixantaine, ce qui était un âge vénérable à cette époque, pour un homme qui avait derrière lui à peu près 25 années d'un ministère extrêmement difficile, il a fait des milliers de kilomètres. On pense qu'il a fait au moins 20 000 kilomètres, et pas par les moyens que nous utilisons actuellement, hein, et dans des contrées qui parfois étaient extrêmement difficiles à traverser. Si vous lisez mon bouquin consacré à Barnabas, on se promène justement en Asie mineure, dans ces régions qui étaient très très difficiles à traverser, et qui ont été certainement à l'origine, à un moment donné, de la démission provisoire du cousin de Barnabas, le fameux Jean, surnommé Marc, qui nous a donné l'Évangile. En voyant tout ce que représentait le parcours sur les hauts plateaux d'Asie mineure, d'une partie de la Turquie actuelle, il n'a eu qu'une seule envie, c'est de repartir à Jérusalem. Et donc, nous avons divers passages dans 2 Corinthiens, par exemple, au chapitre 11, et d'autres passages qui nous montrent combien son ministère avait été dense pendant ces 25 années, combien de difficultés il avait connues, combien de fois il avait échappé à la mort de manière miraculeuse, le nombre de fois où il avait été lapidé ou fouetté par ces fameux 40 coups moins 1, hein, comme dit le texte. Et le voilà qui se retrouve donc prisonnier à Rome à cause de l'Évangile, et en face d'un responsable de cette église de Colosse qui lui transmet des nouvelles extrêmement désagréables, préoccupantes, concernant une montée de ce qu'on appelait le prégnosticisme, qu'on retrouve aujourd'hui dans le Nouvel Âge en particulier, mais d'autres déviations d'aujourd'hui. Donc il est dans une situation extrêmement difficile, n'est-ce pas? En prison, nouvelle très préoccupante, des nuages sombres devant lui. Colossiens 4 laisse entendre au verset 11 que les rangs de ses fidèles qui ont collaboré avec lui sont en train de s'éclaircir, de se clairsemer. Il va être de plus en plus seul dans son service, parce que de moins en moins compris dans le radicalisme de sa foi, son refus d'accepter les compromis qui feraient revenir l'Évangile à une dimension judaïsante qui le viderait de son contenu révolutionnaire. Et quelle est son attitude? Quel est le climat de cet épître? C'est quelque chose de fantastique, cette invitation à la louange, hein, qui jalonne toute cette épître. Colossiens chapitre 1er verset 3, on va juste prendre les petites pépites de reconnaissance et de louange. Colossiens 1, 3, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » Verset 12, Colossiens 1, 3, on va y revenir. « Nous rendons grâce à Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. » Verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. » Le texte qui suit est extraordinaire. Verset 24, c'est une manière aussi de dire sa reconnaissance. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Chapitre 2, verset 7. « Étant enraciné, fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé ou débordé en action de grâce, un verbe extrêmement fort, débordé en action de grâce. » Chapitre 3, verset 15, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, littéralement, soit arbitre, règne en arbitre dans vos cœurs, au cœur de votre cœur. Et soyez reconnaissants. Verset 17, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Chapitre 4, verset 2, persévérez, soyez assidus, tenez ferme dans la prière, veillez-y avec action de grâce. En quelque sorte, cette note de reconnaissance qui jalonne et assaisonne ce message à l'église de Colosse. Et finalement, le climat de cette lettre est particulièrement bienfaisant à cause de cela. Et c'est une sainte habitude de l'apôtre Paul. Je me suis trompé, vous l'avez remarqué tout à l'heure, puisque j'ai pris Philippiens 1, verset 3 aussi. Et vous avez remarqué que sans le vouloir, nous sommes tombés sur la louange à Philippe. C'est-à-dire que quasi au début de chacune de ces épîtres, sauf les Galates, parce que la situation de cette union d'églises, les églises de Galatie, était tellement grave, l'éloignement par rapport à la substance fondamentale de l'évangile était tellement grand, le risque était tellement grand de ne plus avoir un évangile authentique mais un faux évangile, que là, l'apôtre Paul, parce que l'incendie était engagé dans cette union d'église, c'était le moment où on ne pouvait plus commencer par la louange, il fallait tout de suite éteindre l'incendie, n'est-ce pas ? On ne pouvait pas louer le Seigneur devant une union d'église qui était en train de se perdre. Alors là, il commence vraiment sur des chapeaux de roue et avec une grande solennité en même temps. Mais sinon, pensez au début de la première et de la deuxième Corinthiens. Si l'apôtre Paul a pleuré dans sa vie et de son ministère, c'est en particulier à cause de l'église de Corinthe. Quelle souffrance, que de difficultés n'a-t-il pas rencontré avec cette église. Et pourtant, il commence les deux épîtres en louant le Seigneur pour cette église. Et c'est d'autant plus beau que ce n'est pas le tempérament de l'apôtre Paul. Saul de Tarse avait tout pour que pendant toute sa vie, il soit un type difficile à vivre. Quand on était le nec plus ultra, le sommet, le zénith, le paroxysme du pharisaïsme sur cette terre, vous imaginez bien tout ce que cela pouvait signifier, et il ne se gêne pas pour dire avec humiliation à diverses reprises dans son témoignage que véritablement il avait un sale caractère. Et son sale caractère a rendu encore plus radical son obstination à lutter avec violence, avec haine, respirant la menace et le meurtre contre la voix du Seigneur, puisque c'est ainsi qu'on appelait l'Église primitive, n'est-ce pas ? Et puis le voilà qui est retourné comme une crêpe sur le chemin de Damas, bouleversé dans le tréfonds de sa personne, tombant amoureux de ce Seigneur qu'il luttait, qu'il combattait par ignorance, mais de toutes ses forces. Et le Seigneur va commencer à labourer, à transformer son caractère et à en faire un homme habitué à la louange et à la reconnaissance. Ça, c'est ce que le Seigneur est capable de faire dans une vie qui se livre entièrement à lui. Ce qui était valable à cette époque est valable pour nous aujourd'hui. Vous avez au cœur de cet esprit de louange de l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, il y a beaucoup de passages qui évoque cette dimension. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, donc dans une série d'impératifs très, très brefs, très ramassés, très lapidaires. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Et c'est intéressant, dans le texte grec, c'est toujours soyez joyeux. La structure des phrases est tout à fait différente dans le texte grec, parce qu'il faut mettre l'emphase sur ce qui est particulièrement important. Et là, c'est le toujours qui est important. Dans le verset 17, le texte grec dira « sans cesse prier ». Sans cesse. C'est sans cesse qui est l'emphase. « Rendez grâce en toutes choses ». On inverse la phrase. « En toutes choses, rendez grâce. »« En toutes choses, rendez grâce. » Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce que nous pesons, ce fait, c'est pas du luxe, c'est pas aléatoire, c'est pas facultatif, c'est pas fait pour une élite. C'est un impératif. C'est un commandement. C'est la volonté de Dieu à votre égard, vous qui êtes enfants de Dieu. Et là, j'ai noté, ça revient tout de suite à l'esprit, cette conclusion de ce petit joyau de l'Ancien Testament. Et un livre tellement humain et divin à la fois, le petit prophète Habacuc. C'est extraordinaire. Après ces temps de dialogue heurté avec l'Éternel, dont il ne comprend pas le silence, cette stratégie de passivité devant le désordre indescriptible à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, dans les années 609, 608, 607, n'est-ce pas, à l'époque d'ailleurs où Daniel allait être emmené à Babylone, il comprend pas. Et il y a donc ce dialogue avec l'écoute, vie de prière, écoute. Je me tenais sur la tour et je veillais pour savoir ce qu'il allait me répondre. Ça, c'est la prière. Puis Dieu lui répond. Toutes sortes de choses. Tout d'abord, qui le gêne à quelque part. Et finalement, il réalise à travers tout ce que Dieu lui dit, ce qui va arriver à son peuple, dont il est solidaire. Il vit au milieu de son peuple, il sait qu'il va être appelé à souffrir, il va certainement vivre la déportation, le déracinement en 597, puis en 586. Mais au bout d'un moment, il se redresse. On a l'impression qu'il bombe le torse de son cœur, en quelque sorte, et il s'exclame, n'est-ce pas, « Toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Il se redresse, il regarde dans la bonne direction. Et il recommence à marcher, comme le disent les Écritures, sur ses lieux élevés. Voilà un exemple de mise en pratique, bien avant les épîtres de Paul, de ce passage que nous avons évoqué. C'est le Christ vivant qui est la source et la raison de notre joie et de notre louange, parce qu'il ne change pas. Colossiens chapitre 3, 16, un des versets clés de cette petite épître, de ce joyau, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous, ou oui, avertissez-vous, s'il y a une nuance d'avertissement, avertissez-vous aussi les uns les autres en toute sagesse. Comment ? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs. Ça part de l'intérieur. Dans vos cœurs. En vertu de la grâce, à cause de la grâce. Dans l'épître aux Éphésiens, il est question de la gloire, de la beauté de la grâce. La beauté de la beauté. La beauté de la beauté de Dieu en Jésus-Christ. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Nous avons évoqué Éphésiens 5, 18 à 20, n'est-ce pas ? Quelle est une des expressions de ce fait d'être continuellement rempli de l'Esprit, c'est qu'on chante le Seigneur. C'est qu'on chante le Seigneur. De diverses manières, le texte le dit. Aussi en collectivité, ecclésialement, mais bien entendu, aussi tout au long de notre journée, là où Dieu nous a placés. Être rempli du Saint-Esprit. Dans la mythologie grecque, vous savez peut-être que les marins avaient peur des sirènes, ces personnages mythiques, n'est-ce pas, de cette antiquité grecque, de cette mythologie, qui savaient très bien par leur chant envoûter les marins et provoquer même de terribles naufrages. Et la mythologie grecque raconte que deux personnages clés de cette mythologie, Ulysse d'une part et Orphée d'autre part, ont été confrontés sur leur bateau à ces sirènes. Ulysse, lui, a fait mettre ce que j'ai mis encore aujourd'hui pour pouvoir un peu me reposer, j'ai mis mes boules-quies en cire. Et lui avait des boules-quies à cette époque. Vous voyez, c'est vieux les boules-quies. Il a mis des bouchons de cire dans les oreilles des marins qui étaient avec lui sur le bateau. Et lui-même s'est fait attacher, garrotter au mât du navire, de manière à ce que ni les marins qui étaient avec lui, ni lui-même, ne soient envoûtés par le chant des sirènes. Plus tard, dans cette même mythologie, Orphée, qui était à la recherche de la toison d'or, est passé dans la même région, mais lui, c'était un musicien. Et il a utilisé sa lyre pour chanter des mélodies qui surpassaient en beauté la mélodie des sirènes. Et c'est comme ça qu'ils ont vaincu dans cette traversée pour récupérer la toison d'or. Et il y a là aussi dans nos vies, n'est-ce pas, toute une image de ces possibilités diverses. Il y a ceux qui essayent de se boucher les oreilles, c'est pas suffisant. Mais c'est si beau de pouvoir entonner avec son cœur, et bien sûr par les lèvres aussi, les louanges au Dieu qui nous a sauvés. Louer Dieu avec abondance et en tout temps, dit l'Épître aux Colossiens. Dans les situations faciles, normales, de la vie quotidienne, en travaillant, Colossiens 3, 17, nous l'avons lu. Et j'ai là un échantillon de l'attitude de frère Laurent de la Résurrection, dans un livre qui, heureusement, a été réédité il y a quelque temps, « La présence de Dieu dans la vie de tous les jours ». C'est vieux, hein, puisque ça appartient au XVIIe siècle. C'était un frère dans l'ordre des Carmélites, né vers 1608, décédé le 12 février 1691. Il a été cuisinier, il a aussi vécu 25 ans de sciatique tenace qui l'avait rendu boiteux. Il faisait souvent le travail de deux à la cuisine. Et il disait ceci, j'ai dû le lire tout à fait au début, mais ça vaut la peine de le répéter. Le temps de l'action, disait-il, n'est point différent de celui de l'oraison, de la prière. Car je possède Dieu aussi tranquillement dans le tracas de ma cuisine, posséder Dieu pas dans le sens actuel. Hein. Ça c'est le vieux français hein, qui n'allait pas tout à fait dans la même définition qu'aujourd'hui. Aussi tranquillement dans le tracas de ma cuisine où quelquefois plusieurs personnes me demandent en même temps des choses différentes que si j'étais à genoux devant l'autel. Il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes choses à faire. Je retourne ma petite omelette dans la poêle pour l'amour de Dieu. Quand elle est achevée, si je n'ai rien à faire, je me prosterne par terre et adore mon Dieu, de qui m'est venue la grâce de la faire. Après quoi, je me relève plus content qu'un roi. Je ne sais pas si nous avons été heureux de préparer le Bäckerhofer aujourd'hui, ou je ne sais quelle tresse, ou Kuglof, ou je ne sais pas quoi encore, parce que le samedi, on fait un tas de choses qu'on ne veut pas faire le dimanche, n'est-ce pas? Louez le Seigneur le matin, et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Psaume 59, verset 17. Matin et soir, les Lévites devaient se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel. 1 Chronique 23, 30. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Psaume 119, verset 164. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de ta justice. Verset 62. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34, verset 2. Nous le connaissons bien, ce cantique. Hein? Mes lèvres ruissellent de louange. C'est ainsi que un traducteur un peu révolutionnaire a rendu, mais c'est très juste, le verset 171 du psaume 119. Mes lèvres ruissellent de louange. Apprendre à cultiver la reconnaissance, le merci constant au Seigneur. Il y a trop d'ingratitude, trop d'esprit de revendication et de mécontentement dans nos vies aujourd'hui. Et voyez-vous, comment le dire ? Vous avez un magnifique bâtiment qui m'a pratiquement, à chaque fois que je m'en suis approché depuis jeudi soir, rappelé l'ancien. Je ne peux pas m'empêcher, quand j'arrive ici, de me souvenir de cette salle archi-comble, où il était même délicat d'ouvrir une fenêtre, parce qu'on risquait vite les rhumes, parce que la moindre place, le moindre demi-mètre carré était très important. Nous ne devons pas vivre en regrets vains et stériles. Et il n'est nullement question ici ce soir de réveiller des moments peut-être parfois difficiles dans les conceptions qui peuvent s'affronter dans une église lorsqu'elle est confrontée avec la nécessité d'élargir l'espace de sa tente. Mais voyez-vous, mieux on est installé, plus on est nombreux, plus on est équipé, plus, hélas, souvent, on perd de vue l'essentiel. Et plus on devient insatisfait. Ce qui me frappe dans les pays d'outre-mer que je visite et que nous visitons maintenant, et je vais faire prochainement mon 44e séjour outre-mer, bien croyez-moi, ce qui me frappe, c'est que dans la simplicité émouvante des églises de certaines parties du globe, il y a une beauté de la reconnaissance que nous avons perdue. Nous sommes devenus difficiles. Nous sommes prompts à souligner ce qui ne va pas. Et nous avons beaucoup de peine à aligner d'abord les sujets de reconnaissance qui nous permettraient ensuite de donner une juste évaluation à ce qui n'est pas selon notre convenance. Un cœur qui est rempli de reconnaissance ne peut pas aussitôt après éjaculer une amertume ou des paroles dures et brutales parce que quelque chose ne le satisfait pas. C'est pour cela que nous devons prendre l'habitude, la sainte habitude du fond du cœur de commencer par la reconnaissance et la louange au Seigneur. De manière à ce que continuellement, dans toute situation, nous regardions ce qui est beau, ce que Dieu fait,
où Jésus-Christ est-il visible dans notre vie d'église et dans tous les autres domaines de notre vie? Dans une ville côtière où de grands bateaux entreprenaient la traversée de l'océan, il y avait une petite église. Le pasteur avait l'habitude de publier à la fin de l'année le rapport statistique de son assemblée. Une année, les membres de l'église remarquèrent un article inhabituel. Parmi les chiffres indiquant le nombre de membres, il y avait la note suivante: disparu en mer, 9. Les membres de l'église ne connaissaient personne qui se soit perdu en mer. Et quelqu'un demanda donc au pasteur ce que cela signifiait. Et il répondit: eh bien voici, au cours de l'année, il y en a 11 qui m'ont demandé de prier pour des membres de leur famille ou des amis qui allaient prendre la mer. Étant donné que je n'ai entendu que 2 d'entre vous remercier publiquement le Seigneur pour le retour sain et sauf de leur bien-aimé, j'en ai déduit que les 9 autres étaient disparus. C'est pourquoi je les ai inscrits dans le rapport. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Sans cesse. C'est frappant, n'est-ce pas? Cette incessante précision quand il est question de la reconnaissance. Sans cesse. C'est-à-dire développer un esprit de louange. Le dramaturge athée Eugène Ionesco a dit ceci: je sais que les chrétiens doivent traverser le monde en louange, mais je ne les entends pas crier. Et Spurgeon de dire lui à sa manière: au ciel, la louange est le vêtement des saints, autant s'y faire ici-bas. Et j'ai été très sensible à cette remarque, je n'y avais jamais pensé. Un bébé est parfaitement capable de demander, de faire connaître ses besoins, mais il est incapable de remercier lorsqu'il reçoit. Et j'ai donc mis en dessous de cette citation: l'infantilisme spirituel suit la même voie d'ingratitude. En fait, l'ingratitude est le signe que nous sommes restés des gosses, dans le mauvais sens du terme. Et que nous n'avons pas appris dans nos vies à dire merci. Alors que il y en a des occasions. Pensez donc à cette journée. Simplement à ce que nous avons vécu aujourd'hui, même si ça a été difficile. Alors nous aurions pu, je vois le temps qui passe, nous aurions pu prendre bien des exemples, mais je veux terminer. Nous avons évoqué la nécessité de louer le Seigneur en tout temps, en précisant bien, n'est-ce pas, dans les choses ordinaires de la vie, dans le travail, matin et soir, 7 fois le jour, au milieu de la nuit, en tout temps donc. Et j'ai gardé pour la fin, louer le Seigneur dans les situations difficiles. Pour revenir précisément à Daniel, chapitre 6. Et pour souligner que c'est lorsqu'on a exercé son esprit à beaucoup louer le Seigneur dans les situations ordinaires de la vie qu'on est armé pour le louer dans les situations difficiles. Je ne peux pas louer le Seigneur si je traverse une situation difficile et si je ne me suis pas entraîné en quelque sorte lorsque tout allait bien. Et c'est là qu'une fois de plus, je bénis Dieu pour cette indication que c'était 3 fois par jour comme il le faisait auparavant, que le vieillard Daniel louait son Dieu. Parce qu'il l'avait fait auparavant. Parce que dans la prière, d'une manière plus particulière, l'esprit de louange était la respiration de son âme devant Dieu. Quand il a été dans cette confrontation avec une épreuve qui, humainement parlant, était de surcroît tellement injuste, eh bien, il a continué à pouvoir respirer la louange qui faisait vraiment partie des chromosomes de sa vie nouvelle, commencée des dizaines et des dizaines d'années auparavant. J'ai noté, et je l'ai fait cet après-midi, en lisant quelques psaumes, je me suis souvenu que c'est avant d'aller dans le jardin des Oliviers et à Gethsémané, vous le savez, que Jésus, avec ses disciples, a chanté ces merveilleux psaumes du Hallel, le petit Hallel, puisqu'il y en a deux, il y a le grand Hallel qui suit. C'est pas parce que l'un est moins important que l'autre, mais tout simplement parce que le premier ne compte que quelques chapitres, les chapitres 113 à 118, alors que le second va des chapitres des psaumes 120 à 136, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, vous le savez, dans cette chambre où la scène, le repas de la Pâque a été pris par Jésus avec ses six proches. Au début du repas, on a chanté les psaumes 113 et 114, et avant d'aller plus loin, dans le jardin et vers la croix, Jésus a entonné avec ses disciples les psaumes 115, 116, 117, 118. Et quand on lit, et j'ai relu cet après-midi, à cause de cela, le contenu de ces psaumes du grand Hallel, Alléluia, hein, louer l'Éternel, ça m'a une fois de plus bouleversé. Parce que Jésus, il dit des paroles, prenons simplement dans le psaume 118, mais qui sont prophétiques, mais sur le point de s'accomplir, n'est-ce pas ? Dans ce psaume 118, verset 22, « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. » Verset 27, « L'Éternel est Dieu, il nous éclaire, attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel, c'est lui, n'est-ce pas ? Tu es mon Dieu ! Et je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde, l'un des plus beaux mots de l'Ancien Testament, il peut être traduit de 10 ou 15 autres manières, sa loyauté, son amour inconditionnel, sa miséricorde durera toujours. Vous entendez Jésus ? Qui avec cette lucidité parfaite qui le caractérise, c'est ce qu'il va souffrir, qui dans quelques moments va s'effondrer dans la prière, en proie à de terribles angoisses, s'apprêtant à prendre sur lui le péché de l'humanité, peut prononcer ces mots, n'est-ce pas ? Il loue le Seigneur. Mais Jésus, j'en suis persuadé, en tant qu'enfant juif, nous y reviendrons. Oh, nous pourrions d'ailleurs même prendre ceci. Alors, ça c'est dans le Talmud, c'est venu plus tard. Un rabbin a écrit dans ce recueil qui est un commentaire et qui ajoute des traditions du judaïsme à l'Ancien Testament. Un rabbin a donc recommandé à chaque petit garçon juif de prononcer les 100 bénédictions journalières. C'est très très intéressant. L'enfant se lève le matin et il est tout juste en train de sortir du sommeil que déjà il s'écrit dans les familles juives pieuses « Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers qui ouvre les yeux des aveugles. » Hein, il est comme ça. Alors il se lève, il s'étire, et puis il ajoute d'une voix qui commence à être un petit peu plus ferme, « Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui délie ceux qui sont liés. » Il a besoin de s'étirer, de s'étendre. À l'instant, peut apprécier des futurs hommes celui de la toilette, il prononce comme ses petits camarades un peu partout, « Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné de nous laver les mains. » Il s'habille et là il dit, « Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui veille ceux qui sont nus. » Puis il enfile ses sandales, s'il en a, « Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui a pourvu à tous nos besoins. » Alors il noue sa ceinture, il couvre sa tête. « Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui a saint Israël de force et qui a couronné Israël de gloire. » Alors il se met à table et devant le pain, il prononce la bénédiction rituelle. « Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui tire le pain de la terre. » Et à la fin du repas, il ajoute « Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nourrit toutes tes créatures. » C'est beau, n'est-ce pas? Même si c'est un rituel, nous voulons aller au-delà du rituel. Mais combien c'est beau d'égrener sa journée en remerciant le Seigneur. Dans les situations difficiles, la veuve d'un missionnaire qui avait été martyrisé en Afrique a écrit ceci, « Je me sentais comme un oiseau en cage, mais j'étais déterminée à être un canari chantant, plutôt qu'un Samsonnet battant des ailes contre les barreaux de sa cage. » Ce fut la plus grande bénédiction de toute ma vie.